toujours sur Radio Royan-Vercors et Radio Campus, hein, une communication avec les scientifiques sur les deux antennes à Grenoble et également du côté du sud Grésivaudan, du Royan-Vercors. Et puis nous sommes donc en compagnie de Juliette Blanchet, Hugues François, Annelise Mureau pour en savoir un petit peu plus et puis un peu interpeller à propos de ce changement climatique. Hein.
Deux jours de festivités autour d'une exposition de Kobe et d'épisodes radiophoniques qui sont diffusés dans tout le couvent des Carmes.
Le tout dans le cadre de la résidence artistique En route vers l'avenir de le futur de demain.
Voilà. Voilà. Donc, nous allons tenter bien évidemment de parler du contexte climatique, du réchauffement climatique encore dans cette troisième partie. Est-ce qu'on on écoute un dernier...
Un peu pour un support à discussion.
Ouais.
Mais toi qui as vécu beaucoup d'hiver, beaucoup d'automne, beaucoup de saisons, est-ce que tu sens qu'il y a une différence de saison?
Oui.
Est-ce que tu sens que toi qu'on a vécu...
Moi j'ai vachement l'impression que c'est les mêmes les saisons, je ne change pas. Hein.
Toi ça n'a pas changé pour toi les saisons?
Mais j'ai vachement l'impression qu'elle se décale. Alors, il reste après à trouver deux, trois un peu plus farfelus que moi et qui modifient le calendrier, tu vois. Mais, modifier le calendrier lunaire ou solaire ou quel qu'il soit, ça, c'est autre chose. C'est une autre paire de manches.
Mais tu penses qu'on aura encore des hivers? Tu penses qu'on aura
Oui, bien sûr. Ce qui me fait peur, c'est qu'on risque d'avoir des hivers beaucoup plus précoces et beaucoup plus sévères. Voilà. D'accord. Après, bon...
Concernant les stations de ski et tout ça...
Oui. Comme tous les domaines, on va dire par exemple la restauration, il lui faut son public, les stations de ski pareil, comme tous les domaines, mais on ne respecte rien, on ne respecte pas grand-chose. On veut gagner de l'argent et on va très vite et c'est pas bon. Je vais pas dire il faut pas de beaucoup de tourisme, mais on respecte pas les règles, on va dire.
Ok.
Surtout dans le Royan où qui est un endroit tellement humide que moi j'ai appelé un aquarium pendant des années. J'avais l'impression que je revenais dans l'aquarium, tout était vert, etc. Dès que je revenais du sud, par exemple. Et là, maintenant, je commence à être inquiète parce que cet été, maintenant, il y a, par exemple, beaucoup moins d'eau dans Cholet. Monsieur Pin s'inquiète pour pouvoir continuer son usine, sa scierie hydraulique. À la fontaine de mon village, Sainte-Eulalie, on a un débit d'eau qui ressemble à celui du mois d'août. Et nous, on se sert beaucoup de cette fontaine. Beaucoup de gens du village arrosent avec tout l'été. Et là, on se demande si on va pouvoir arroser l'été qui vient.
Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir arroser l'été qui vient? C'est un peu la grande question. Et juste une petite question à Juliette Blanchet à propos des précipitations actuelles. C'est un peu la moyenne par rapport aux autres années, parce qu'il semble quand même pleuvoir assez régulièrement en ce moment, même si c'est, comme vous le précisiez, nettement insuffisant pour un régime nominal. Mais ceci dit, actuellement, c'est pas forcément la grosse sécheresse.
Ouais. Alors, si on parle de notre région à nous, effectivement, donc le mois de janvier, il était extrêmement sec, mais depuis quelques mois, ça a quand même repris. Donc, on est à peu près dans la normale. Par contre, comme il n'y a pas que nous, hein, même en France, par exemple dans le sud de la France, eux, ils sont en déficit tous les mois depuis janvier 2022. Voilà. Donc, ça commence à faire.
Est-ce que l'eau de la Bretagne, qu'elle est riche en eau, est-ce que si on invente un système que le trop d'eau de Bretagne pourrait venir dans la région PACA, par exemple, c'est possible, ça? T'es pas obligé de répondre.
Alors, ça va être loin, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que hier, je regardais les cartes du BRGM, donc c'est l'entité qui regarde, en gros, le niveau des nappes et qui alerte quand ils sont bas. Il y avait une carte en bleu et rouge, donc rouge, tout PACA était rouge, ce qui veut dire que toutes les nappes sont en déficit très important. Et en fait, toute la Bretagne était bleue. Donc, en tout cas, en Bretagne, pour l'instant, ils sont dans un état satisfaisant d'un point de vue hydrologique. Mais bon, ça reste un peu loin et voilà, il vaut mieux essayer de faire avec les ressources locales.
Et puis en Bretagne, il n'y a que l'état hydrologique qui va bien. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes en Bretagne. Moi qui suis breton, je peux en parler, je représente ici...
L'alcoolisme, tu veux dire ?
Oui, oui, par exemple. Exactement. Merci de le souligner.
Moi, je peux poser une question à Juliette aussi, pendant qu'on est là ?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Ah, parce que moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est pas tant le déficit à un moment donné qui pose problème, plus que l'accumulation de déficit, mais ça pose aussi des questions sur la réserve elle-même. J'ai pu lire à certains endroits que en fait, ça avait des effets structurels sur la capacité même des nappes à stocker de l'eau et à se reconstituer à l'avenir. Et finalement, avec le changement climatique, c'est plus ces tendances de long terme qu'on interroge.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui et ce qui va se passer dans 10 ans ou alors à la fin du siècle. Et à la rigueur, même quand je dis que là, la Bretagne, les nappes vont, ça ne veut pas dire que la Bretagne a aussi souffert, par exemple, de la sécheresse de l'été dernier. C'est juste qu'il y a eu quelques mois qui font que les nappes se sont remplies. Et c'est vrai qu'on a quand même tendance à un peu oublier facilement le passé. Et même la sécheresse de l'an dernier, on a tous les scientifiques ont dit, là, il y a une telle sécheresse, on en parle tellement dans les médias, on en a parlé peut-être même trop, que ça a une prise de conscience, les gens vont changer de comportement, et en fait... En fait, ça passe vite. on oublie vite, on veut vite oublier.
Oui, puis on est à fond dans l'actualité avec les méga-bassines et le combat de... Alors, peut-être que je vais dire des âneries énormes. Tu m'arrêtes, moi, je suis un simple consommateur de l'information comme un mouton à l'abreuvage, en regardant Anne-Lise. Est-ce que tu peux nous en parler très vite de ce problème autour des méga-bassines ou ce serait trop long d'expliquer des choses ?
Je peux t'apporter quelques éléments de réponse pour moi, sans se prononcer forcément sur le fond des choses. En tout cas, c'est un petit peu la même problématique qu'on a en montagne. C'est-à-dire que c'est avant tout une question de choix politique et de comment est-ce qu'on fait le choix d'allouer l'eau à un usage plutôt qu'à un autre, et comment ce choix, c'est un choix qui est collectif ou qui est aux mains d'un certain nombre de personnes en fonction d'un certain nombre d'intérêts plus ou moins limités. Et c'est vraiment cette question-là, quoi. L'agriculture, elle a quand même bénéficié pendant longtemps de l'irrigation, et c'est effectivement un problème à terme qui va se poser, qui va devenir de plus en plus crucial. Si on parle beaucoup d'eau ces derniers temps, c'est qu'on a connu effectivement deux épisodes consécutifs là, de sécheresse, donc un l'été dernier, puis un qui s'annonce relativement marqué aujourd'hui, et que derrière on a des manières de se garantir certains usages de cette ressource en eau. Et la question, c'est que ce choix, il doit être collectif, parce que ça nous concerne tous. L'eau, ça reste un bien commun. Et on ne peut pas laisser à une certaine forme d'agriculture ou à un certain nombre d'acteurs qui ont la même mise sur cette forme d'agriculture le choix de décider pour nous, parce qu'on est tous concernés.
C'est ça qui crée de la distorsion, notamment.
C'est ça, en tout cas, qui crée de la tension, et la tension forte qu'on peut avoir autour de cette question, autour de cette ressource, parce qu'aujourd'hui, elle correspond bien à un certain mode d'agriculture, à un certain mode d'exploitation de la ressource, qui n'est pas forcément celui qui est partagé par le plus grand nombre.
C'est d'ailleurs un problème qui se décline aussi en montagne. On parle de l'agriculture, des enjeux de l'eau en montagne, et c'est la même chose avec l'économie de l'or blanc, etc.
C'est un petit peu ce que je disais dans mon intervention précédente, c'est-à-dire qu'effectivement, en montagne, la question, c'est pas tant la quantité d'eau en tant que telle disponible et le fait qu'on consomme de l'eau pour la production de neige. La question, c'est à qui cette eau, elle va manquer, à quel moment, pour quel besoin, sachant que dans une perspective de changement climatique, le besoin en eau pour accompagner l'adaptation des différentes activités, voire le changement d'activité dans certains territoires, puisque le tourisme n'est pas forcément la seule finalité des territoires de montagne. C'est une question qui va se poser de manière de plus en plus cruciale à partir d'aujourd'hui et en s'accentuant dans l'avenir.
Et moi, je reviens sur la naissance de ma fille. Désolé de me ça se rapporte à moi, mais c'est un nouvel être qui va arriver dans ce monde. Ma fille, quand elle va avoir 3 ans, à votre avis, si elle nous réécoute là, je lui dis tiens, réécoute ce qu'a fait papa, enfin, bon, elle s'en foutra, mais bon, je lui mettrai quand même. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire le paysage dans 3 ans? On sera en 2027, 2026-2027. Est-ce que dans 3 ans, par exemple, alors vous allez me dire, tu n'avais pas qu'à faire d'enfants et te reproduire, c'est de ta faute, mais est-ce qu'en 2027-2028, est-ce que le paysage, est-ce qu'il aura changé? Est-ce qu'il y aura déjà des changements vraiment de la basse montagne, la moyenne montagne, la haute montagne? En tout cas, est-ce que par rapport à ce qu'on voit maintenant de nos yeux, est-ce que ma fille verra la même chose ou des petites différences?
Bon, les évolutions, c'est quand même relativement lent. C'est-à-dire que dans 3 ans, je ne peux pas dire que tout sera radicalement différent.
D'accord.
Par contre, c'est vrai que par exemple, quand on a vu l'été dernier, tous les végétaux, ils étaient ils s'étaient mis en mode survie, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu toutes leurs feuilles, etc. Et moi, je me suis même demandé, mais est-ce qu'ils vont reprendre? Eh bien, le fait est que oui, ils ont repris. Mmh. Seulement, je me dis que s'ils reprennent par-dessus encore une sécheresse au fur et à mesure, voilà, ça les fatigue. Et donc, s'il y a 4-5 ans de sécheresse d'affilée, il y aura sûrement des impacts sur les végétaux, certains qui vont mourir. Mais de là à dire, on ne peut pas, voilà, vous avez vu, déjà, c'est difficile de prédire le temps demain ou dans une semaine, hein, même ça, c'est encore difficile. Donc, de vous dire, dans 3 ans, combien on aura eu de sécheresse, combien on aura eu de précipitations, c'est juste impossible. Nous, les projections qu'on fait, quand on dit on fait des projections, on regarde jusqu'à la fin du siècle, ça ne veut pas dire que quand on simule un jour qui est par exemple en 2052, ça ne veut pas dire que ce jour-là il va se passer ça, mais c'est plus une tendance et un fonctionnement un peu global qu'il faut regarder. Voilà. Donc je ne peux pas du tout vous dire quelle sera la météo et qu'est-ce qu'on aura eu pendant les 3 prochaines années.
Mais dans tous les cas, en fait, il faut se préparer à un changement, même si ce n'est pas demain ou dans 3 ans, mais il faut se préparer à un changement et il faut commencer à s'adapter et pas mal s'adapter. En fait, sur la région, par exemple, typiquement ici dans le Royan, on est dans une zone qui aura tendance à être de plus en plus méditerranéenne. Au final, les végétations vont changer. Donc, il faut s'adapter maintenant. C'est pas dans l'urgence qu'il faudra s'adapter.
On l'est déjà un peu dans l'urgence.
Mais est-ce que notre réactivité est aussi à la hauteur de ce changement exponentiel aussi? Vous évoquiez l'agriculture et toujours le système sur lequel on campe, le maïs notamment. Et après le changement, adapter d'autres modes agricoles, est-ce qu'on est en capacité actuellement ou on est toujours un peu dans une inertie
En fait, il y a plusieurs sources. On a souvent parlé de l'inertie du système. Il y a plusieurs sources d'inertie. Hein, et la principale, elle n'est pas forcément climatique. Elle est avant tout anthropique, c'est-à-dire à quel rythme on est capable de changer nos systèmes économiques. Et quand on regarde les différents scénarios qui peuvent être produit par le GIEC, on se rend compte que effectivement la tendance elle est quand même à la dégradation, qu'a priori les scénarios ils commencent à diverger à partir du milieu de siècle, donc à partir de autour de 2050, parce qu'on est encore une fois hein, comme l'a dit Juliette, on n'est pas à l'heure près hein, dans nos études. Donc autour du milieu de siècle, ça commence à vraiment diverger entre les différents scénarios, mais ça veut surtout dire que les actions qu'on entreprend aujourd'hui, par rapport à la tendance qui est donnée, elles vont avoir un impact à partir du milieu de siècle. Mais c'est soit on est arrivé à une neutralité carbone d'ici là, et potentiellement on a des chances de stabiliser le système à l'état qu'il aura atteint en 2050, et ensuite de voir comment on peut le faire évoluer dans un sens ou dans l'autre, soit on continue sur la dynamique qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même une dynamique continue de croissance des émissions de gaz à effet de serre, malgré les chocs conjoncturels qu'on peut avoir, type Covid, où on voit une diminution, mais qui en fait a déjà été complètement rattrapée, et où on reprend la croissance au niveau où elle aurait dû être au moment où on y a marqué un coup d'arrêt. Effectivement, si on va sur des dynamiques-là, on arrive à des changements en fin de siècle qui sont d'une toute autre ampleur que si on arrive simplement déjà à stabiliser nos émissions à leur niveau actuel, sans même partir de neutralité. Donc on a tout ce champ des possibles qui est ouvert, et les actions qu'on prend aujourd'hui pour améliorer l'état climatique au-delà de 2050, elles seront décisives. Et c'est ça qui est vraiment compliqué dans le système. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que ce qu'on fait aujourd'hui, ça aura peut-être pas d'impact pour nous, mais c'est sûr que ça aura un impact pour nos enfants et les générations à venir.
Bon, bah, ma chérie, si t'entends ce direct, t'as vu, j'ai posé la question. Voilà, on ne sait pas trop. Hein, on se pose des, voilà, on est un peu dans la merde, mais voilà, c'est maintenant qu'on doit prendre cette urgence tous ensemble. Mais voilà, t'as vu, j'ai posé la question. Hein, j'essaye de faire un meilleur monde pour toi, ma chérie. Bisous. Voilà un petit message pour ma fille que je lui ferai écouter dans 3 ans. Merci de répondre à ça. C'est bien évidemment, je sais que je vous piège un peu aussi de se dire, vous n'êtes pas non plus des prédicateurs de dire, on pourra, comment dire, et ben voilà, comment seront les paysages. Vous n'avez pas la science infuse non plus, et vous êtes des humains, et vous savez des choses, vous avez des données, des analyses, mais vous ne pouvez pas répondre à tout ça, et vous êtes aussi des regards de citoyens et d'humains à l'intérieur de cette société capitaliste. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que par rapport à ce qu'on a écouté dans les interviews, on entend ma voix. C'est que je suis allé dans un bar à Saint-Marcellin, que je ne citerai pas, et c'est qu'on entend un monsieur au début qui parle et qui dit bon. C'était folklorique cette interview et qui parle que les saisons vont se décaler. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que dans ses projections à lui, il se trompe complètement? Qu'est-ce qu'on peut lui dire s'il nous écoute?
Bon, le décalage des saisons, à point de vue de la température, je suis pas sûre que ce soit ça. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il fait plus chaud, et donc on peut pas dire que c'est juste que l'hiver qui est aussi froid qu'avant, mais qui est plus tôt qu'avant. Je pense pas que ça marche comme ça. Par contre, ce qui est un peu vrai peut-être, c'est d'un point de vue hydrologique. C'est-à-dire, par exemple, avant, dans nos régions, là où il y avait le maximum de débit dans les cours d'eau, c'était au printemps, pendant qu'il y avait à la fois des fortes précipitations et la fonte des neiges qui ajoutait de l'eau. En fait, comme il fait plus chaud plus tôt, la neige fond plus tôt, donc en fait, ce qu'on voit dans les projections futures, c'est qu'effectivement, ce pic de débit, il va être plus tôt, donc il y aura effectivement, d'un point de vue hydrologique, une sorte de décalage. Mais par contre, d'un point de vue de la température de l'air, je suis désolée, monsieur, mais ça se réchauffe et c'est pas seulement qu'un problème de décalage de saison.
Et sa proposition pour lui de décaler le calendrier, du coup, et de faire un autre calendrier, c'est une solution intéressante? Ou c'est de dire que, par exemple, l'hiver, c'est juste un mois, décembre-janvier, après, on invente une autre saison intercalée, une sorte de printemps
Tant que les plantes regardent le calendrier, les animaux aussi, et qu'elles font attention à la manière dont on numérote les jours, bah ouais, je pense que ça peut jouer.
D'accord.
Mais faut juste attendre qu'elles apprennent à lire, quoi.
Ok. Super. J'aime quand on s'énerve un peu comme ça, ça m'émoustille. Alors, je sais pas comment.
Maëlys, a priori, qui aurait quelque chose.
Il y a Maëlys.
Oui, je suis passée de l'autre côté de la cour.
Oh là, incroyable. Moyens techniques.
J'ai trouvé quelqu'un d'autre et je vais te poser des petites questions sur les sports d'hiver. Attention. Alors, quel est ton prénom et est-ce que tu pratiques des sports d'hiver?
Mathilde.
Bonjour Mathilde.
Bonjour. Le sport d'hiver que je pratique, c'est bon. Avant, j'habitais en Suisse. Maintenant, j'habite avec mon vélo. Mais c'est nager dans le lac.
Donc, alors, apparemment, la crème solaire est déconseillée dans tout ce qui est marin et lac. Mais sinon, est-ce que c'est grave? On a une question quand même pour les scientifiques. Est-ce que c'est grave de se baigner dans les lacs de montagne? Est-ce que ça détériore le paysage local?
Est-ce que c'est grave de se baigner dans les lacs de montagne? Est-ce que le touriste néerlandais avec sa crème solaire protection 150, est-ce que lui, il détériore pas tout un système végétal dans ce lac? Est-ce que vous en savez quelque chose? Pas du tout. Voilà.
Alors très clairement, c'est pas du tout ma thématique de recherche, mais ce que je peux quand même dire, c'est qu'il y a certains lacs où ils ont interdit la baignade, mais c'est principalement à cause des crèmes solaires, il me semble.
Il y a une super pub qu'on a fait sur les crèmes solaires. Je vous invite à écouter l'épisode, de, je crois, 2. Voilà.
Moi, j'en ai aucune idée. Hein.
Oui.
Ah, peut-être qu'ils font pipi dans l'eau aussi, je sais pas.
Si, d'accord. Toi, tu te baignes pas, toi. Donc,
Moi, je me baigne pas. Non, surtout pas en montagne, il fait froid. Hein.
D'accord. Très bien, Mathilde. Et tu te baignes où? Dans quel lac? Qu'est-ce que tu pratiques? Le papillon? L'étoile? Raconte-nous un peu. Toi, c'est quoi tes habitudes de baignade dans ces lacs? Ça nous intéresse.
J'ai essayé au lac de Paladru, mais ça n'a pas marché des masses.
D'accord.
Parce qu'apparemment, c'est possible d'avoir des lacs privés. Ouais, parce qu'il y a donc un lac qui n'est pas loin d'ici, qui est complètement privé. Donc alors, on peut s'y baigner, mais... faut pas être peureux d'avoir une amende ou des choses comme ça.
Mais il est privé par qui, Mathilde?
C'est une SCI qui possède le lac.
Ah, d'accord.
J'ai halluciné. Mais sinon, je me baigne dans les lacs que je croise. Parce que d'accord. Quand on monte des côtes à vélo, après...
Donc, à la SCI qui nous écoute, la SCI, si vous voyez Mathilde qui fait l'étoile dans votre lac, vous inquiétez pas, elle a pas mis de crème solaire et puis merde, elle fait ce qu'elle veut, les lacs c'est aussi à tout le monde. Bisous. Voilà. J'aurais dit Mathilde.
Donc comme ça, ils sont au courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à la question des sports d'hiver dans la foule qu'il y a devant nous? Une petite main se lève, allez, soyez pas timide. Est-ce que quelqu'un fait du ski? Comme ça, il sera pas du tout coupable de répondre à ma question.
Ah, et en plus, ça se voit parce que le jeune homme qui a levé la main, il a le bras complètement pété.
Alors, bonjour monsieur voilà. Qui fait du ski. Quel est votre prénom déjà?
Yanis.
Alors, Yanis fait du ski. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... est-ce que tu, dans les prochaines années, tu peux adapter ton comportement par rapport à ce sport d'hiver très polluant, en fait?
Eh bah ouais, c'est une question quand même qu'on se pose parce que du coup c'est un sport que j'aime beaucoup, mais en même temps il y a quand même un impact climatique et puis d'activité qu'on pourrait se passer. Donc non, à ce niveau-là je pensais au ski de rando, choses comme ça. Ou...
Et du coup j'ai une question pour les scientifiques encore, est-ce que le ski de rando pollue moins ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui détériore par le bruit? Effectivement, je pense que ça pollue moins qu'une remontée mécanique, mais est-ce que par le bruit qu'on produit en montagne, par les potentielles avalanches qu'on déclenche, est-ce que ça peut détériorer aussi la montagne, ce sport d'hiver?
C'est vraiment des questions à la con. Est-ce que le ski de rando pollue moins? Est-ce que les loisirs dans l'absolu et la pratique intensive des loisirs répartis sur l'ensemble des territoires sont pas déjà... une forme de mobilité purement accessoire dont on pourrait éventuellement se passer à terme dans un monde décarboné?
Vous avez c'est une vu vraie la, question. Vous avez vu la technique du chercheur, c'est qu'on pose une question, il répond par une question. Et ça, et voilà. Vous voyez, parce que à toi qui m'entends, ma chérie, c'est compliqué à avoir des réponses avec les chercheurs. Hein, ils reposent des questions derrière. Voilà. Donc,
ouais, on pourrait presque faire de la politique.
Ouais.
Mais c'est pas les mêmes formes de pollution. Effectivement, dans un cas, on est sur une forme de pollution de masse organisée et concentrée sur un certain nombre de capitaux sous forme de remontée mécanique. Les remontées mécaniques, en tant que telles, c'est pas forcément la chose qui est la plus polluante. Hein. Quelque part, il y a tout une partie des aménagements, enfin des pro-aménageurs, des pro-aménagements en montagne qui revendiquent le fait justement de concentrer les flux, puisque une des formes de pollution et de... qui n'est pas vraiment de la pollution à proprement parler, qui est liée à la pratique des activités de pleine nature, dont le ski de randonnée fait partie, mais qu'on pourrait adresser de la même manière à la randonnée, au VTT, à l'escalade ou au canyoning, c'est la manière dont on va déranger et impacter les milieux naturels qui sont réduits à des lieux de pratique d'un loisir. Et donc là, effectivement, ça peut nous interroger sur la manière dont on occupe l'espace et la manière dont on le dégrade par notre occupation à des fins qui sont plus ou moins primordiales ou accessoires.
Après, si l'Isérois va faire du ski, j'ai envie de dire qu'il quand même il profite de son milieu naturel en tant qu'Isérois, comme un chamois qui profite de sa montagne dans laquelle il vit. C'est-à-dire que le problème, peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est plutôt le tourisme de masse... où par exemple les Bretons viennent skier en masse, parce que le Breton aime le ski, aime le génépi, le Breton aime le génépi, voilà, le Breton aime le génépi. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire aux Bretons qui nous écoutent sur Radio Campus et Radio Royan, et je sais qu'ils sont nombreux, est-ce qu'il ne faudrait pas leur dire faites du bateau, faites du catamaran, faites ce que vous savez faire chez vous, et venez pas faire chier les Isérois, parce que vous n'avez pas de montagne, le plus haut mont c'est dans le massif armoricain, il y a 800 mètres, voilà, faites du bateau. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait dire aux gens, plutôt que d'utiliser et de faire des loisirs dans l'espace, dans l'environnement dans lequel ils vivent?
Non, mais le problème, c'est pas savoir où est-ce qu'on fait des loisirs. Le problème, c'est les loisirs, quelque part. Et quel niveau de loisirs on a dans notre société. Et j'ai souvent l'habitude de finir certaines de mes interventions par cette mise en perspective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être pas tant le problème du climat pour le tourisme que le problème du climat pour le tourisme qu'il faudrait se poser. Parce que ça correspond à une organisation de notre société qui est fondée sur la mobilité des capitaux et des facteurs de production. Et qu'à un moment donné, c'est bien gentil de faire des touristes parce que ça fait jouir dans son territoire et que ça permet à des élus locaux de dire qu'ils sont dans le plus beau lieu du monde et de le mettre en valeur et qu'il faut absolument valoriser le patrimoine et que c'est essentiel. Tout ça pour délocaliser l'ensemble des filières de production à l'autre bout de la planète parce que ça coûte moins cher de les faire produire là-bas. Parce que le principal facteur de production sur lequel on fait de l'économie, c'est la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est nous. Hein.
Ah, j'aime quand ça dénonce dans cette émission. Oh là là, c'est beau. Merci Yanis. Maëlys,
je note qu'il est doublement coupable parce qu'il est breton et skieur.
Oh la vache.
Oui, alors que moi, je suis isérois et non skieur.
Voilà. Comme quoi, on vit dans un monde.
Un saint et l'enfer.
Voilà. Et...
Bah, ça s'entend l'accent, non? Le petit côté grésivaudan, non? Ouais.
Et j'avais envie de rebondir sur justement la question. Quand on pourra plus faire de ski, parce qu'il y a un moment, il paraît qu'il y a presque plus de glaciers, notamment sur les écrins, sur l'arc alpin, de moins en moins, et plus de glaciers, l'eau, la ressource en eau, plus problématique. Comment ça va? Vous avez une idée de comment ça va se goupiller à l'avenir? Ce sera des à-coups comme ça, puisqu'il n'y a pas de régularité de glaciers qui fondent tout doucement et qui alimentent les cours d'eau.
Ouais, alors ce qui alimente les cours d'eau, c'est pas que les glaciers, hein, c'est presque plus la neige, en tout cas chez nous. Hein, par exemple, quand on regarde la Belle Donne, c'est tout enneigé. Mmh. Donc toute cette quantité de neige qui va fondre plus tard, ça va donner de l'eau. Et c'est finalement pas tant les glaciers qui vont donner de l'eau. Mmh. C'est très difficile de vous dire. Et d'ailleurs, vous savez, on connaît pas du tout tout, surtout. Et en fait, finalement, il n'y a pas assez de recherche où c'est difficile de vous dire quel est l'impact, en tout cas, moi, je ne saurais pas le dire, de la fonte des glaciers, donc je parle vraiment des glaciers, pas de la neige, sur l'hydrologie. Mais toujours est-il qu'en termes de masse, c'est quand même moins important la masse d'un glacier, et ça ne va pas fondre en un jour, hein, ça fond petit à petit, par rapport à la quantité de neige. Ouais. Voilà.
Enfin, après, je mets un petit peu tout dans le même sac. Quand il n'y aura plus de flocons, finalement...
Alors, quand il n'y aura plus de neige, bon, quand même, si on prend, par exemple, l'exemple de Belle Donne, ça va quand même assez haut. Donc, il y aura quand même toujours... Enfin, toujours.
L'alimentation
un peu continue. Mais en tout cas, il va y avoir de la neige plus longtemps que dans Vercors et en Chartreuse. Ça, c'est clair. Okay.
En fait, la neige, c'est par nature une ressource qui est extrêmement variable, qui tombe déjà par le passé, beaucoup une année, moins une autre année. Par contre, la tendance, elle est claire aujourd'hui. C'est qu'on aura... de plus en plus d'hivers moins bien enneigés et de moins en moins d'hivers très bien enneigés. Mmh. Et effectivement, ça a un impact majeur sur l'ensemble de l'hydrologie de montagne. Et donc de l'alimentation dans les plaines, parce que l'eau, à la fin, ça fait qu'un truc, hein, c'est que ça descend. Donc l'eau qu'on a en montagne, elle arrive en plaine à la fin, et la question, c'est effectivement l'impact que ça aura sur l'ensemble de la ressource en eau et de sa disponibilité.